Voyage au fil des mots, c'est à 15h sur Fréquence Mistral et c'est aujourd'hui. Et pour cela, je suis accompagnée par Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe.
Apprendre sur l'amitié et sur notamment notre relation à l'autre.
Oui, tout à fait. Le thème un petit peu de ces histoires, j'ai essayé de les regrouper dans le sens où justement le thème, ça sera la reconnaissance, l'acceptation de l'autre et même l'amitié au-delà de la séparation. Parce que quelquefois, voilà, pour des raisons X, les kilomètres se mettent entre différentes personnes et il faut que ça fonctionne quand même.
Titre du premier conte, une amitié difficile.
Dans le parc zoologique d'une ville dont le nom m'échappe, des animaux natifs des quatre coins du monde essayaient d'oublier leur pays d'origine au milieu des pelouses et des espaces de terre piétinée. Certains y parvenaient, comme le crocodile qui bâillait au bord d'une flaque croupissante, ou bien l'éléphant qui avait trop de philosophie pour ne pas s'adapter à toutes les circonstances. Mais d'autres... On avait réuni dans un enclos aussi fermé qu'une cage un goéland magnifique et un jeune chamois. L'enclos était suffisamment grand pour satisfaire la conscience des gardiens, mais non pour calmer deux ailes immenses et quatre sabots durs. 100 fois par jour, le goéland s'élançait vers le ciel et froissait ses plumes au grillage. Il retombait, étonné, près du chamois qui avait sauté 100 fois par-dessus le rocher de ciment planté là pour lui rappeler les sommets de sa petite enfance. Les deux captifs devinrent amis, car on s'unit souvent dans l'adversité. Ils aimaient le moment où le dernier visiteur quittait le parc. Les enclos se noyaient d'ombres propices aux rêves. Chaque bête se remettait à attendre un miracle de la nuit. On entendait les battements d'ailes, les ululements. Un corps obstiné râpait ses flancs à une palissade. Le hurlement d'un désir inassouvi faisait frémir des silhouettes immobiles frappées de lune. « Si tu vivais près de l'océan, disait l'oiseau marin, tu te laisserais baigner d'écume, tu bondirais sur les récifs que la vague assiège, tu t'envelopperais d'embrun. Si tu venais dans la montagne, répondait le chamois, tu te roulerais dans les névés, tu t'accrocherais aux corniches, tu écouterais le vent qui monte des vallées. Le vent souffle dans mon pays, remarquait l'oiseau en claquant du bec. Je le sens à un parfum plus fort que tous les relents de la ville. Ah, si !» Il ne poursuivait pas. Il ouvrait les ailes. Une vieille sardine dans laquelle avait perdu depuis longtemps son odeur de marée. « Et l'odeur des sapins mouillés, » reprenait le cabri. « Écoute, écoute, les sapins chantent. Ne les entends-tu pas ? Ah, si je pouvais monter en haut de la pierraille jusqu'à un rocher en surplomb, au risque de rencontrer l'aigle. » Il se taisait aussitôt, sûr de l'inutilité de ses songes. Dans la cage solide, il avait oublié la peur. Au fil des jours, au fil des nuits, les deux bêtes surent qu'un même sentiment les animait. L'amitié grandit entre eux au point qu'il leur arrivait parfois qu'une petite pointe d'un bonheur d'être ensemble, malgré les grilles, les rochers dérisoires, un perchoir abrité autour duquel l'ennui s'accumulait. Un soir, ils décidèrent de s'enfuir. Comment y parviendraient-ils, je ne sais. Un trou dans le grillage, peut-être, un crochet mal fixé, un piquet qui cède. Le gardien ne surveillait guère l'enclos de ces animaux inoffensifs. Il avait bien assez de soucis ailleurs. Les barreaux résistaient difficilement aux fureurs du tigre. La girafe finissait toujours par atteindre la corbeille de Zinia avec sa langue longue et bleue. Dans la ville endormie, personne ne vit trotter le chamois plus furtif qu'un rayon de lune, plus silencieux qu'une ombre. Le goéland, après avoir fixé le lieu du rendez-vous, passa souple et blanc au-dessus des toits. Il n'y eut qu'un moineau noctambule pour l'apercevoir. Les deux fugitifs se retrouvèrent aux portes de la ville. « Où allons-nous ? » demanda le chamois. « Allons au bord de l'océan, » proposa l'oiseau. « Tu seras bien sur les rochers. Dans leur creux pousse une herbe salée qui te ravira. Tu auras aussi le sable chaud pour te blottir, les falaises pour contempler les tempêtes, les belles, les merveilleuses tempêtes. L'eau et le ciel s'y mélangent dans la grande folie du vent. Allons au bord de l'océan !» Devant tant d'enthousiasme, le petit chamois accepta parce qu'il ne voulait pas perdre son ami et parce que, sans doute, il serait bien partout où celui-ci serait heureux. « Tes falaises ont assez de hauteur, au moins ?» s'inquiéta devant-il avant de décider complètement. « Oh, elles sont si hautes que par temps clair, on découvre la pleine mer et tous les bateaux qui naviguent. » Ils partirent donc au pays des goélands. L'oiseau était gonflé de joie. Dès leur arrivée, il ne put résister à l'appel du large. Il vola avec ses frères à la rencontre d'un chalutier qui rentrait au port, et ce fut, au-dessus du sillage, une belle danse aérienne. Il alla au-devant d'un orage, dans le grand mouvement de la houle noircie que les éclairs frappaient déjà. Quand le soleil sortait des flots, une ardeur prenait les prisonniers nouvellement libérés. Il décrivait des cercles de plus en plus vastes qui l'éloignaient de son compagnon, et le chamois restait seul, debout, sur sa falaise. Alors, l'exilé essaya de s'habituer à cette paroi rocheuse qui n'était pas franche sous le sabot, qui portait des herbes si fortes et d'un goût si inattendu qu'elles soulevaient le cœur. Le goéland revenait, la plume neigeuse et l'œil aussi clair que l'eau marine. Il trouvait le chamois réfugié dans une grotte, pelotonné, un peu fiévreux. « Tu as l'air triste, petit chamois ?»« mais non, je t'assure, je suis content d'être ici. »« Oh, je vois bien que ce n'est pas vrai !» répondit un soir le goéland. « Je vois bien que tu regrettes tes montagnes. Oh, je t'ai un peu délaissé depuis notre arrivée. Excuse-moi. » Le chamois se coucha et il profita de ce qu'il avait le museau entre les pattes pour pousser un soupir. Mais le goéland entendit. « Allons dans tes montagnes, proposa-t-il. Partons tout de suite, sans nous retourner, sans revoir la mer. » Le petit chamois ne put retenir le bond qui le mit debout, prêt à fournir une longue course, prêt à galoper jusqu'aux Alpes sans le moindre repos. Ils y arrivèrent au matin, quand les montagnes voilées de mauve sortaient de la nuit. « Regarde, goéland, regarde ces sommets !» Le soleil frappait les neiges éternelles. L'oiseau crut que jamais il n'en supporterait l'éclat. Le petit chamois bondissait déjà à la pointe extrême d'un piton rocheux. Il courait, il sautait, franchissait les failles, dégringolait les pentes, toujours plus vite, toujours plus loin. Le goéland le suivait, les ailes ouvertes toutes grandes. Parfois, il planait au-dessus de la vallée en s'efforçant d'utiliser les chemins du vent. Il surplombait la mer des alpages vertes et figées, avec pourtant l'ombre des nuages qui glissaient sur l'herbe et entretenaient l'illusion. Car, dès le premier jour, il sut qu'il lui faudrait se contenter d'une illusion. Au matin, le chamois entra dans une forêt aux mélèzes, aux branches enchevêtrées. Le goéland ne put le suivre. Il vit disparaître son ami et, tristement, alla se poser sur une souche. Il dîna d'une truite dont la fadeur lui noua le bec. Le chevau revint de sa course avec toutes les senteurs des résines dans son pelage ébouriffé. Au sortir des bois, il avait poussé jusqu'au sommet et il gardait sous son front buté l'exaltation de 1000 sauts défiant la raison, de 1000 équilibres en d'impossibles lieux. « J'ai tant musardé, s'écria-t-il, j'ai tant brouté de fleurs que je suis un peu ivre et je crois que... » Il s'arrêta au milieu de la phrase, car il venait de voir son ami frileusement posé sur ses pattes palmées qui ne valaient rien pour marcher dans l'herbe, ses ailes mal repliées, traînant à terre. « Oh, je comprends. » chevrota-t-il sans pouvoir cacher sa déception. « Tu es malheureux ici, autant que moi, sur la falaise. »« Mais non, oh, je me trouve très bien dans tes montagnes. J'ai réussi une belle pêche. Le torrent fait presque autant d'écume qu'une tempête d'équinoxe. Et puis, j'ai découvert un lac qui m'a paru immense. » Le chamois secoua sa tête sur laquelle deux petites cornes depuis peu avaient poussé et lui donnait un air conquérant. « Ne te force pas à mentir. » « Je sais bien que tu ne peux pas vivre dans ce pays. »« Oh, je crains que non, » répondit l'oiseau tout bas. « Alors, séparons-nous. J'aime mieux te savoir heureux loin de moi que malheureux à mes côtés. »« Mais nous nous entendons si bien. »« Oui, oui, mais nous sommes faits pour vivre dans des régions différentes. »« Est-ce que l'amitié ne peut résister à l'absence ?»« Je ne veux pas être égoïste au point de te garder. »« Tu as raison. Partout où j'irai, tu seras avec moi. »« Adieu, ami. »« Adieu. » Le goéland s'envola. Le petit chamois regarda longtemps ce point d'argent qui fuyait vers l'ouest, qui s'éloignait de lui et qu'il n'oublierait pas. Quand il baissa la tête, il aperçut sur l'herbe une fragile plume blanche que le vent emportait déjà. Bientôt, il n'y eut pas une plume, mais deux, mais cinq, mais trente, mais 30 000. La montagne, pour mieux se souvenir de l'ami perdu, prit en quelques minutes la couleur du goéland. Et la première neige tomba.
Le second conte s'appelle « Petit loup raté ». Ouh, ça m'a l'air triste, cette petite histoire.
Ben, tu sais, souvent, les contes ont des bonnes morales, mais souvent, c'est un petit peu tristounet, c'est vrai. Enfin, là, c'est une histoire, tu verras, avec dans une famille de loups, effectivement. Il y a bien longtemps, vivait au fin fond de la jungle qui recouvrait l'Inde, une famille de loups gris. Elle était composée du grand-père loup, de la tante louve, de père et de mère loup. Or, mère louve attendait des petits pour la pleine lune, et la pleine lune n'allait pas tarder à se montrer. Oh, « J'espère que ce sont de bons enfants !» dit père loup, avec un rien d'inquiétude en contemplant le ciel depuis l'entrée de la caverne où il s'était installé. « Sache que dans la famille, nous n'avons jamais mis au monde que de magnifiques loups gris !» dit tante louve d'un ton assuré. « Oui, sans doute, » dit grand-père loup. « Cependant, pense au vieux sage que tu as dévoré l'an dernier !» Ce dieu Brahm n'aime pas qu'on lui mange ses seins. Tais-toi, animal de mauvais augure, s'écria tante louve. D'abord, c'était en temps de famine. Ensuite, le vieillard n'était qu'un paquet d'os et personne n'y a trouvé de plaisir. Et puis, je me suis repenti, ajouta père loup, malgré tout soucieux. Sur ces entrefaites, la pleine lune se leva au-dessus des grands banins de sauvages et mère louve mit bas. Un, deux, trois petits loups gris, conta tante louve. « Je crois que c'est pas encore fini !» dit faiblement mère louve. « En effet, j'en aperçois un quatrième !»« Bah, il semble bien rachitique !»« Et il n'est même pas gris !» s'écria père loup. « Pense au vieux sage que tu as dévoré l'an dernier !» dit grand-père loup. « Oh, il est on ne peut plus laid !» décréta mère louve, en le repoussant d'un coup de patte avant de donner ses mamelles à ses autres trois petits pleins d'avidité. « Oui !» « Il est complètement raté !» gronda tante louve, dégoûtée. « Pouf ! Qu'il attende donc son tour !» Et durant son enfance, petit loup raté attendit son tour. Il eut toujours ce qui restait du lait de sa mère et de ce qui restait des chasses de son père et ce qui restait de place dans la caverne familiale. Le fait est qu'il n'était pas beau à voir. Court sur ses pattes, toujours un peu plié, dans l'attente de bondir si on faisait mine de le chasser, l'œil inquiet, le poil jaune et hirsute, la queue basse, l'oreille couchée, il donnait une impression de crainte maladive, de sournoiserie et de servilité. Mais en vérité, ne devait-il pas sa survie à la promptitude de sa fuite, à ses ruses, à son humilité? Personne ne se souciait de lui. Tout le monde le rudoyait, le méprisait, le traitait avec hauteur, le repoussait, l'insultait même. Lorsqu'il se trouva en âge de subvenir à ses propres besoins, sa faible constitution ne lui permit jamais de se nourrir de chair fraîchement tuée, comme le faisaient ses grands frères gris. Il en fut réduit à courir derrière les grands carnassiers pour se repaître de leurs restes. Seul, son ami, un vieux perroquet qu'il avait sauvé un jour des anneaux d'un serpent, certes, il l'avait sauvé dans l'intention de le manger lui-même, mais devant sa maigreur déplumée, il s'était senti rempli de pitié. « Bah, retourne chez toi !» lui avait-il dit en cachant sa générosité sous un ton bourru. « Tu ne vaux pas le coup de dent !» Depuis lors, bien souvent, quand petit loup raté avait le cœur triste, le vieil oiseau le consolait en lui racontant des histoires. Il avait beau voyager, il avait même vécu chez les hommes où il avait appris à parler. Malheureusement, en prenant de l'âge, il avait perdu la mémoire et ne se souvenait plus que d'un seul mot « chacal ». Que d'ailleurs, il ne se faisait pas faute d'employer à tout propos pour paraître savant. « Mais qu'est-ce que ce mot veut dire ?» lui demanda petit loup raté avec intérêt.
« Beaucoup de choses, » répondit le perroquet pris au dépourvu. « Ne m'entends-tu pas le prononcer aussi bien pour exprimer ma satisfaction que ma fureur, mon étonnement que ma certitude ? C'est un maître mot, voilà, qui le possède, possède la science. » et l'admiration de Petit Loup Raté pour son ami s'accrut lorsqu'il s'essaya en vain à prononcer le maître mot. À peine arriva-t-il à le traduire en une espèce de jappement doux, fort différent du hurlement ordinaire au loup gris. « Bah, ce n'est déjà pas si mal, » dit le perroquet pour le consoler. « Sache que, sauf le ménate et moi-même, personne d'entre les animaux ne sait en rendre l'exacte sonorité. »
Quand vint pour Petit Loup Raté le temps de fonder une famille, il se mit en quête d'une petite louve ratée, comme lui, car il se doutait bien de l'accueil que lui réserveraient les autres. Il n'en trouva point. Il commençait à se résigner au célibat et à la solitude quand Brahma le prit en pitié. Une nuit qu'il chassait, il rencontra une chienne d'homme que son maître était allé perdre en forêt pour s'en débarrasser. Seule dans la jungle hostile, la pauvrette tremblait de tous ses membres.
« Ne me fais pas mal, ne me fais pas mal !» s'écria-t-elle, en apercevant les yeux jaunes du petit loup raté qui luisait d'appétit.
Petit loup raté fut surpris. C'était bien la première fois qu'un si gros gibier manifestait de la peur devant sa chétive personne.
« Qui es-tu » demanda-t-il.
Elle allait répondre quand un loup gris fit irruption dans la clairière.
« J'espère que tu ne me disputeras pas ma proie !» s'écria-t-il. « N'oublie pas que tu es si laid que tu dois attendre ton tour !»
Petit loup raté eut pitié de la pauvre chienne terrorisée. Il décida de la défendre. Mais sachant qu'il n'avait aucune chance de vaincre son frère loup par la force, il utilisa la ruse.
« Sais-tu qui est arrivé à notre père parce qu'il avait dévoré un saint ermite ? » demanda-t-il. « Il t'a engendré et jusqu'à ce que tu quittes notre clan, il a été la risée des loups gris. »
« Fort bien. Mais s'il avait dévoré la chienne de l'ermite, par-dessus le marché, il en aurait sans doute engendré deux comme moi.
Voyons, mon frère, t'es jamais disputé une proie.
Non, convint le loup gris.
Pourquoi le ferais-je maintenant alors que le gibier n'est qu'un gros paquet d'os?
Pourtant, cette fois, je me battrai contre toi jusqu'à la mort, car je t'admire trop pour te laisser, de sang-froid, faire une bêtise que notre père n'a pas faite.
Que veux-tu dire?
Je veux dire que lorsque j'ai voulu dévorer ce paquet d'os, il s'est écrié. « Ne me touche pas, je suis la chienne d'un pieux ermite et je porte la bénédiction de Brahma. Crois-moi, mange-la si tu veux, mais après m'être passé sur le corps. Je serais trop chagrin à la pensée que ta compagne grise puisse mettre au monde un petit loup aussi râteau que moi.
Ce bancal ne m'a jamais disputé un morceau de choix. Pourquoi voudrait-il mourir pour défendre si maigre gibier ?» pensa le loup gris.
« C'est bon, » dit-il en ricanant. « Dévore-la donc toi-même, afin de voir si ta compagne, dans le cas où tu en trouverais une, te donnera des petits encore plus ratés que toi. »
Sur ces paroles pleines de méchanceté, il s'enfonça dans la jungle à la recherche d'un gibier plus gras et moins dangereux.
« Va, tu es sauvé, » dit Petit Loup Raté.
La chienne émit alors un jappement doux.
« Comment ? Que dis-tu ? » s'exclama Petit Loup Raté avec étonnement. « Mais c'est exactement le bruit que je fais quand je veux imiter le maître mot d'homme. N'est-ce pas perroquet ?»«
Parfaitement. Chacal, pour en rendre l'exacte sonorité. »«
C'est cela même, » dit la chienne. « Cela signifie merci. » »«
Entre autres, » bougonna le perroquet.
Petit Loup Raté prit la chienne pour compagne, tous deux bien heureux d'unir leur misère. Ils eurent quatre petits qui ressemblaient à leur père, mais n'eurent pas à attendre leur tour pour téter leur mère. Lorsque la lune d'hiver, tout le clan des petits loups gris se réunit afin de présenter les petits de l'année, Petit Loup Raté ne manqua pas de s'y rendre.
Hélas, dès qu'il apparut entouré de sa progéniture, un hurlement général s'éleva.
« Mais que viens-tu faire parmi nous? Tu es une honte pour notre race, toi et les tiens !»
Blessé dans son amour-propre, Petit Loup Raté se redressa fièrement et dit:
« Je suis venu vous avertir que, désormais, je ne participerai plus à vos réunions, ni moi, ni les miens, car, par la présente volonté de Brahma, nous sommes devenus une race à part entière. Nous sommes des... » Il chercha un moment ce qu'il pouvait être avec ses poils jaunes et hirsutes, sa queue basse, ses oreilles couchées, ses yeux inquiets, ses pattes toujours un peu pliées, prêtes à fuir. Et, ne trouvant pas, il lança le maître mot « Nous sommes des chacals ».
C'est ainsi que naquit la race des chacals de Brahma, dans la bonté qui approuva. Il prit le grand livre de la création et inscrivit sous loup gris « chacal », petit loup rati, qui signifie « merci » en langue bangadi. Depuis, Il y eut maint déluge où se sont noyés beaucoup d'hommes avec leurs coutumes et leurs langues. Seul, de la langue Bangadi, disparue comme les autres, subsiste encore ce mot inscrit au livre de Brahma. Combien ne le savent pas et qui le prononcent avec mépris et s'en servent même comme dans une insulte. Alors Agathe, si tu permets, on va aussi toujours dans la lignée de l'exclusion de celui qui ressemble pas à l'autre, hein, le vilain petit canard hein, qui est connu comme histoire. Moi, je vais raconter l'histoire de Flamme, un petit dragon. Dans une grotte cachée au fond d'une vieille forêt au cœur des montagnes de l'Est, vivaient monsieur et madame Dragon. Ce n'était pas une grotte sale et humide, comme on pourrait l'imaginer, mais une belle et accueillante caverne avec un feu que monsieur Dragon allumait tous les jours en soufflant dessus et qui crépitait dans une grande cheminée. En face de l'âtre, chaudement installé sur un énorme édredon gonflé de plumes, madame Dragon couvait un œuf bleu ciel, bien plus gros que celui d'une autruche. Monsieur Dragon, pour tromper le temps, parcourait un livre en réchauffant ses pieds devant la cheminée. Tous deux attendaient avec impatience la naissance de leur dragonneau. Chaque jour, Monsieur Dragon demandait « Alors, Katia, est-ce qu'il va naître aujourd'hui ?» Et Madame Dragon répondait « Non, il faut attendre encore un peu. » Jusqu'au jour où Madame Dragon s'écria « Hector ! Hector ! La coquille se fendille !» Monsieur Dragon se précipita aux côtés de Madame Dragon et ils purent enfin admirer leur petit dragonneau qui sortait de son œuf. Hector et Katia étaient si heureux d'avoir un bébé. C'était le seul qu'ils auraient jamais. C'était ainsi chez les dragons. Dans toute la longue vie, il n'avait qu'un seul et unique dragonneau. Monsieur Dragon était déjà très fier de son fils. Il allait pouvoir lui enseigner tout ce qu'il savait, s'envoler dans le ciel, cracher des flammes, forger des épées invincibles et toutes ces choses qui font qu'un dragon est un dragon. Le dragonneau qui venait juste de sortir de sa coquille les regarda tour à tour et se mit soudain à éternuer dans une petite gerbe d'étincelles. « Ce sera un grand dragon, nous l'appellerons Flamme !» déclara alors Hector. Les semaines passèrent, puis les mois. Flamme grandissait chaque jour un peu plus. C'était un jeune et beau dragon. Tous les amis de Katia et d'Hector le trouvaient magnifique. Vint le jour de son premier vol. Hector emmena son fils sur le plus haut pic des montagnes de l'Est. « Regarde, Flamme, il suffit de t'élancer en déployant les ailes et de te laisser porter par le vent. C'est très facile, tu vas voir. » Et il plongea dans le vide pour montrer à son fils comment il fallait faire. Pas très rassuré, Flamme s'approcha au bord de la falaise, hésita un instant, puis il écarta les ailes et sauta. Après quelques secondes de frayeur, il s'aperçut qu'il planait dans l'azur. Oh, c'était merveilleux de sentir le vent caresser ses ailes, fabuleux de traverser les nuages et encore plus grisant de faire la course avec les aigles. Ça, Flamme savait maintenant voler. Son père entreprit alors de lui apprendre ce qui faisait la force des dragons, cracher du feu. Flamme avait appris rapidement à voler. Hector pensait que l'apprentissage du feu serait tout aussi simple pour lui. Mais non, ce fut beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Malgré tous les conseils de son père, Flamme ne parvenait pas à faire jaillir la plus petite étincelle de sa gueule. Il avait beau éternuer, cracher, tousser, pas la moindre flammèche ne sortait d'entre ses dents. Le dragonneau devint bientôt la risée de tout le voisinage. Un dragon qui ne sait pas cracher du feu n'est pas un dragon, disaient les uns. Ne serait-ce pas plutôt un gros lézard, se moquaient les autres. Flamme, quel drôle de nom pour un ver de terre, ricanaient-ils tous. De magnifique dragon, il devint gros lézard. Flamme était très malheureux et ses parents aussi. Ils continuaient bien sûr de l'aimer comme au premier jour, mais ils étaient tristes de voir leur fils désespéré de ne pouvoir cracher de feu comme les autres dragons. Ils allèrent voir les plus grands magiciens pour tenter de trouver un remède. Flamme fit un régime à base de pétrole, sans résultat. Il essaya également une cure de soufre, mais cela lui donna simplement mauvaise haleine. Tous les matins, il avalait un grand bol de kérosène et grignotait des silex toute la journée. Mais cela ne changeait rien. Il fallait s'y résigner. Flamme ne saurait jamais cracher du feu de dragon. Puis ce fut l'hiver. L'hiver le plus rude que les dragons eurent jamais connu. Un hiver froid et humide. Un hiver de nez bouché, de toux et d'angine. Un hiver où tous les dragons tombaient malades les uns après les autres. Cet hiver-là, beaucoup de foyers restèrent éteints. Les dragons malades avaient la gorge trop douloureuse pour cracher leurs flammes et allumer des feux dans leurs cheminées. Ils se regroupaient alors dans des cavernes de ceux qui résistaient encore. Un matin, plus aucun dragon ne fut capable de cracher du feu. Toutes les cheminées étaient éteintes et les cavernes étaient plus froides que des igloos. Tous les dragons s'étaient installés dans la même grotte. Ils tremblaient, claquaient des dents, s'engourdissaient. Depuis qu'ils avaient appris à cracher des flammes, les dragons avaient totalement oublié comment allumer du feu sans souffler dessus. Chacun essaya de fouiller dans sa lointaine mémoire pour s'en souvenir. « Il faut mélanger de la pâte de coin et du coulis d'escargot. »« Mais non, c'est en frottant des vers luisants sur une brosse à dents qu'on allume du feu. » « Vous racontez n'importe quoi. Lorsque j'étais petit, j'ai enflammé une pomme de pin en l'écrasant à la fourchette dans une poêle à frire. »« Mais, vous ne sentez pas le brûler ?» demanda soudain un vieux dragon. « Si, Edmund, tu as raison. Bon, ça vient d'où ?»« Là, regardez, il y a de la fumée !» Tous les dragons se retournèrent et s'approchèrent du nuage blanchâtre qui commençait à s'étendre dans la caverne. Ils découvrirent alors avec surprise d'où venait l'odeur de brûlé qui envahissait la grotte. Assis par terre, Flamme frottait un petit bâton entre ses pattes et le faisait tourner si vite sur un autre morceau de bois qu'il s'en dégageait des volutes de fumée. Parfois une petite cendre incandescente s'allumait. Le jeune dragon déposa ensuite des herbes sèches sur les braises qui s'étaient accumulées. Et tout s'enflamma brusquement. Flamme, qui n'était jamais parvenue à cracher du feu, avait appris en cachette comment le faire jaillir de deux morceaux de bois vigoureusement frottés l'un contre l'autre. Grâce à lui, ils allaient tous enfin pouvoir se réchauffer. Aussitôt, quelques dragons apportèrent des brindilles et des feuilles pour les brûler, puis des rameaux et des branches et pour finir des troncs d'arbres entiers. Une impressionnante flambée crépitait dans la cheminée. Ils s'étaient tous installés en arc de cercle devant l'âtre. Ils n'avaient plus froid. Ils ne tremblaient plus et s'étaient arrêtés de tousser. Ils allaient survivre à ce terrible hiver. Depuis ce jour, on ne se moque plus de Petite Flamme. Il est devenu un héros, le maître du feu, celui qui sauva les dragons.
Alors toujours sur le thème de la différence, mais cette fois en chanson.
Oui, oui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir, mais c'est vrai, je ne vais pas chanter, hein, je vais les lire. Donc c'est pour ça que je parle de redécouverte, parce que quand on lit un texte de chanson, on l'entend toujours d'une matière différente. Et là, c'est notre ami Lenny Escudero. Il a écrit de nombreuses chansons et là, j'en ai trouvé deux justement qui traitent du thème de la différence. Elles sont assez fortes, hein, chargées d'émotions, moi je le trouve. La première s'appelle Le Cancre. Je vis tout seul au fond de la classe. Enfin, je dis je vis, mais pas vraiment. J'ai pas de cervelle, j'ai que de la crasse. Faut se faire tout petit, petitement. Et pendant que les purs, les vrais intelligents, vous savez, ceux qui sont toujours au premier rang pendant qu'ils vivent la vie des autres, la vie des bons honteurs, la vie des douze apôtres. Moi, je vis la mienne et vive le naufrage. Moi, je vis la mienne et vive le voyage. Un bout de soleil tombé du ciel au creux de ma main et je voyage. Un chant d'oiseau qui s'est perdu parce que personne ne l'a entendu et je voyage. Bouche fermée, les bras croisés, les yeux levés, écoutez bien ces têtes incultes. Le bon savoir, le vrai savoir, le seul savoir et vous serez de bons adultes. Et mon frère Corbeau, à l'autre bout du champ, chante, pour lui tout seul, la chanson du printemps. Le professeur m'a dit que j'étais intelligent, mais pas comme il le faudrait. C'est pas de la bonne intelligence. Je suis ce qu'on ne doit pas être. L'exemple à ne pas retenir. Qui rit quand il faudrait se taire. Et mon avenir, j'ai pas d'avenir. Et pendant que les autres font des sciences naturelles, moi, je pense à Margot, Margot qui est si belle, qui ne sait rien du tout. Ni Diana, ni d'Arcole, mais qui a la peau douce et douce la parole, qui se fout du génie, et vive le naufrage, et qui aime la vie, et vive le voyage. Un grand loup bleu danse dans ses yeux quand je le veux, et je voyage. Puis il me mord au creux des reins, c'était hier, et je m'en souviens, et je voyage. Apprendre à lire et à écrire, pour moi aussi, c'est important. Mais après, pour lire quoi? Écrire quoi? Ce qui les arrange, les grands? Le jour de ma naissance, je suis venue dans le tumulte, sans doute pour m'avertir que je venais dans un monde occupé par des adultes. Ça serait bien, l'école, si au lieu de toujours parler d'hier, on nous parlait un peu d'aujourd'hui, de demain. Mais de quoi je me mêle, moi? J'y connais rien. Pourtant, j'ai l'impression que j'apprendrai mieux. Ce qui me touche un peu, ce que j'aime bien, c'est peut-être pour demain. Qu'est-ce que ça sera chouette! Vous avez entendu? Il faut que je parte, la cloche a sonné. Composition d'histoire et j'aurais dû réviser. Et moi, je suis là, à parler. Je perds mon temps, oui, oui. Oh, vous savez peut-être, il y a eu un coup d'État au Chili. On y assassine pour un non, pour un oui. Au Portugal, il y en a eu aussi. Au petit matin, c'était la fin de la nuit. Et il paraît qu'en Espagne, on recommence à chanter dans les rues. Mais je ne suis sûre de rien. J'ai seulement entendu dire. Ah, il faut que je parte, la cloche a sonné. Ah, composition d'histoire et j'aurais encore oublié. Et pourtant, c'est facile. Et puis, c'est important, mais je m'en rappelle jamais de la date de la bataille de Marignan. Mais je sais que c'est facile. Mais j'ai encore oublié. Ah, mince! Oh, dimanche, je vais encore être collée. Mais pourtant, c'est facile. Et puis, c'est important, la date de la bataille de Marignan. Oui, c'est ça qui est important. Oui, la date de la bataille de Marignan.
Veuillez écouter la chanson de tous les jours.
La deuxième s'intitule « Le vieux Jonathan ». Le vieux Jonathan, qui était notre ami, aimait aux enfants raconter sa vie. « Dis-nous encore l'histoire des tranchées, la médaille d'or que t'as gagnée. » Oh, on a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. À sa guerre en trop pour sauver un gars, il fut un héros et perdit un bras. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. Et il s'arrêtait parce que trop ému. Nous, on lui disait « Eh ben vas-y, continue !» Et il racontait. « Faut vous dire qu'avant, je vivais pas seule ici. J'avais une femme. Elle était jolie. Mais elle trouvait pas que je l'embrassais bien, que je l'embrassais plein, seulement avec un bras. » On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté, son histoire d'amour qui dure pas toujours, et les sentiments qui font mal en dedans. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté, une larme au bord de ses grands yeux bleus. Mais c'était encore pour qu'on rigole mieux. Et le temps passait. Par un jour d'hiver, il en a fini de son temps. Nous, autour de lui, attendions comme avant. Il parlait tout bas, mais savait, faut croire, que la mort n'attend pas la fin des histoires. J'en rigole encore. Oh, j'en rigole encore. Car avant de mourir, il m'a dit « Petit, ris encore longtemps, car dans ma chienne de vie, je n'ai rien eu de gratuit que le rire des enfants. » J'en rigole encore, car si tu m'entends, mon vieux Jonathan, dans ton paradis, tu te dis « Ah, le petit, il rigole encore comme les enfants. »
C'est pas la poule aux œufs d'or, ce petit conte, c'est plutôt une histoire de pommes en or et comment finalement...
Tout ce qui brille n'est pas d'or.
On va se rendre compte avec ce conte que finalement, même si on essaie de faire le bonheur des gens avec des choses qui brillent, en pensant que c'est merveilleux, en pensant que ça va leur faire plaisir, on s'aperçoit que quand on réfléchit bien, ben le bonheur est peut-être beaucoup plus simple que cela. Et cette petite histoire l'illustre parfaitement. Le pommier de Gênes. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Eugène et qui avait pour ami un très vieux pommier. Souvent, il grimpait dans ses branches et lui racontait sa vie. Un jour qu'Eugène est installé dans son arbre, le pommier, qui était un petit peu magique, lui dit « Écoute, Eugène, je suis vieux, très vieux, et je vais bientôt mourir. Avant cela, je veux te confier un secret pas plus gros qu'un pépin. Écoute-moi bien. » Mais à ce moment-là, le pommier fut pris d'un tremblement, ses feuilles jaunissent d'un seul coup, puis ses branches se plient vers le sol. Eugène comprend que son vieil ami vient de mourir. Il se met à pleurer et il reste longtemps dans les branches de son arbre mort. Quand il décide enfin de partir, il voit une pomme qui brille tout en haut du pommier. Eugène grimpe et il l'attrape. Elle est en or. Mais au moment où il l'accueille, un peu d'or coule et recouvre sa main. Eugène est tout étonné. Il rentre à la maison et voilà qu'en touchant l'échelle qui mène à sa chambre, il la transforme en échelle d'or. Alors il effleure la fenêtre, elle se transforme aussi en or. Il essaie avec la table, il se produit la même chose. Petit à petit, il se rend compte qu'avec sa main en or, il peut transformer tous les objets. Eugène range sa pomme dans un coffre et, tous les jours, il se sert de ce don du pommier magique. Chaque fois qu'Eugène transforme un objet, ses parents sont tous contents. Ils disent « Et hop, un bol en or !»« Et hop, une cuillère en or !» Alors, Eugène achète un cheval et il décide d'aller de village en village transformer tout ce qu'il peut. Au début, il est accueilli comme un prince, mais petit à petit, les villageois se lassent. Leurs maisons ne sont plus en pierre, leurs assiettes ne sont plus en faïence, leurs armoires ne sont plus en bois, tout est en or. Eugène parcourt des lieux et des lieux, changeant toutes choses en or, sûr de faire plaisir. Si bien que les habitants du pays décident qu'Eugène sera leur roi. Un jour, pourtant, une petite fille arrête Eugène et elle lui offre un gros gant bien épais. Elle lui dit « Arrête tes transformations, je n'en veux plus ta vie en or. Moi, j'aime la vraie vie bien vivante, avec des fruits qui sentent bon, de la vaisselle qui sonne et des chaises en bois léger. Mais ce gant, il ne touche plus rien avec ta main d'or. » Eugène est surpris et attristé qu'on refuse ses cadeaux d'or. Il prend le gant, il l'enfile et il repart. Il arrive chez lui si fatigué qu'il s'endort. Dans son sommeil, il revoit son pommier. C'est comme si l'arbre voulait lui parler, mais Eugène ne comprend pas ce qu'il dit. Alors, en se réveillant, Eugène va vite ouvrir le coffre où il avait rangé sa pomme. Il ne trouve plus que des miettes d'or et quelques pépins. Sa pomme d'or s'est effritée, mais elle a libéré ainsi de vrais petits pépins. Eugène prend le plus beau, il le plante, et l'entoure de tant de soins que bientôt le pépin devint petit pommier. Puis Eugène creuse un puits pour toujours avoir de l'eau. Il fabrique des outils pour tailler les branches. Il élève des bêtes pour avoir du fumier qui fait grandir les arbres et les plantes. Il fait tout cela sans jamais quitter son gant. Et un jour, son pommier donne des pommes. Elles sont rouges et bien croquantes. Eugène en offre à ses amis et tout le monde se régale. Alors Eugène décide de ne plus être roi et de cultiver des pommiers. Quelquefois, il revient s'asseoir dans son pommier à lui et il repense à son arbre d'autrefois. Aujourd'hui, il croit en deviner le secret. La pomme en or est trop dure pour rendre heureux longtemps. Le vrai cadeau, c'est le pépin qui grandit et qui donne un jour des pommes belles et bonnes à croquer, des pommes qui elles-mêmes donnent un jour des pépins.
Ce jeune garçon changeait les pommes et tout ce qui touchait en or. Toi, on te remercie en tout cas d'avoir transformé cette heure d'écoute en véritable petit trésor. Et on se retrouve très bientôt, en tout cas je l'espère.
Merci Aga de m'avoir reçue une fois de plus. À bientôt.